Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. C'est une question qui est revenue ces dernières semaines. L'Église doit-elle autoriser le mariage des prêtres ? Cette question est revenue suite aux révélations accablantes de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. L'auteur de ce rapport, Jean-Marc Sauvé, a évoqué des causes, je cite, « systémiques ». Alors, est-ce que le mariage des prêtres pourrait permettre à l'Église d'avancer sur ces points si délicats ? Quels sont les freins qui demeurent face à une telle évolution ? Faut-il, d'une manière générale, souhaiter le mariage des prêtres ? Voilà notre débat ce soir. Soyez les bienvenus.
RFI.
Hello, trois invités ce soir. D'abord, à mes côtés en studio, Céline Béraud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, directrice d'études de l'EHESS, qui est l'école des hautes études en sciences sociales. Et vous êtes l'auteur du livre « Le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels ». Et puis nos deux invités en ligne, d'abord Bernard Chalmel, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes officiellement, et vous nous raconterez évidemment votre histoire, mais officiellement vous êtes ancien prêtre, car aujourd'hui marié. Vous vous considérez comme prêtre et vous êtes actuellement sans ministère. Jean-Eudes Frénaud, bonsoir.
Bonsoir.
Prêtre du diocèse de Vannes, curé à Sarzeau. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation de ce débat sur RFI. D'abord, Céline Béraud, que dit exactement l'Église sur le mariage des prêtres ? Parce que ça n'a pas toujours été dans l'histoire un sujet d'interdiction. Depuis quand est-ce qu'il y a une position tranchée sur ce point-là ?
Alors, la question, c'est peut-être moins le mariage des prêtres que l'accès d'hommes mariés à la prêtrise. C'est comme ça que la question se pose. C'est ce qu'on appelle une règle qui relève de la discipline ecclésiastique. C'est une règle disciplinaire qui, effectivement, n'a pas existé en tout temps. Elle s'est imposée au cours du Moyen-Âge, à partir du XIIe siècle. Donc ça, c'est au moment où la norme est vraiment affirmée dans l'Église catholique romaine. Elle prend, en fait, du temps à s'imposer dans les faits. Hein, pendant toute une partie du Moyen-Âge, c'est une règle qui n'est pas appliquée. Il faut bien avoir en tête que c'est aussi une discipline qui vaut que pour l'Église catholique romaine, c'est-à-dire que les églises catholiques orientales, qui sont pleinement catholiques, je pense par exemple à l'Église maronite, qui connaissent une histoire séparée. Hein,
au Liban.
Voilà, donc qui à ce moment-là, justement, sont du côté du christianisme d'Orient, ne vont pas connaître cette règle-là, ce qui fait que vous avez aujourd'hui des prêtres catholiques maronites, au Liban notamment, mais on en trouve dans d'autres pays du christianisme où il y a une présence de chrétiens d'Orient. Vous avez une bonne part du clergé qui est un clergé marié, c'est-à-dire que c'est des hommes qui ont été ordonnés alors qu'ils étaient mariés. Je crois que j'ai pas de chiffre récent, mais dans les années 90, c'était un peu plus de 4 prêtres maronites sur 10 au Liban qui étaient mariés.
Donc finalement, c'est un panorama assez varié dans le monde. Il n'y a pas une réalité des hommes mariés qui ne peuvent pas être prêtres dans le catholicisme.
Il y a une opposition, si vous voulez, entre catholicisme romain d'Occident et les églises d'Orient. Alors ensuite, si on intègre de manière plus large la question de la réforme protestante a introduit justement la question de pasteurs mariés. Donc ça a été aussi, si on est à l'échelle là, pas seulement du catholicisme, mais du christianisme dans son ensemble, ça rajoute aussi de la diversité.
Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a cette fracture qui demeure ?
Alors, elle a été contestée, c'est-à-dire qu'elle aurait pu, à plusieurs moments, peut-être être révisée. À un moment vraiment où cette question revient et fait l'objet de demandes et d'actions collectives, c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où les prêtres ont fait l'expérience, pour certains, je pense dans le cas français, du STO, donc du service travail obligatoire. Ils ont partagé les conditions de vie de leurs contemporains. Et lorsque la guerre est finie et qu'ils sont engagés, par exemple, dans les mouvements d'action catholique spécialisés, il y a vraiment cette idée que, alors qu'on s'inquiète déjà d'une forme de déchristianisation, enfin c'est un discours qui monte à l'époque, il y a cette idée que pour rejoindre leurs contemporains, il faudrait qu'ils partagent leurs conditions de vie, c'est-à-dire c'est-à-dire aller non pas habiter dans le presbytère, mais habiter dans des logements collectifs, aller à l'usine pour partager les conditions de travail des ouvriers, se syndiquer et avoir femmes et enfants. Donc c'est une thématique qui va monter. Il y a beaucoup d'espoir au moment du Concile de Vatican II, hein, donc 1962-1965, avec cette idée que peut-être le Concile qui fait cet aggiornamento, c'est-à-dire qui va mettre sur pied, déployer toute une série de changements, pourrait peut-être effectivement revenir sur cette règle, sur cette discipline ecclésiastique. Et en fait, la question est sortie du concile et elle est tranchée de manière, enfin pour confirmer la règle du célibat par une encyclique en 67. Puis elle est rappelée encore par un concile à l'occasion d'un synode des évêques à Rome. Et donc là, ça va être une très grande déception chez toute une série d'hommes d'église qui soit se préparaient à être ordonnés, soit imaginaient peut-être même qu'ils seraient dispensés de célibat.
C'est à quelle période ?
Donc là, on est dans les années qui suivent immédiatement le concile, fin des années 60, début des années 70, et vous avez beaucoup de départs à ce moment-là. L'année 1972, il y a plus de départs, plus d'hommes qui quittent la prêtrise que d'ordination.
Jean-Aude Fresneau, prêtre du diocèse de Vannes, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Quelle est votre position, vous, en tant que prêtre, justement, sur ce sujet ? Les hommes mariés doivent-ils être ordonnés prêtres ?
Alors, je voudrais préciser qu'au niveau des orthodoxes et des catholiques, les évêques sont célibataires. Hein, donc, ce sont les grands prêtres sacramentellement des églises, et eux, ils sont pour tout ce panorama du christianisme, ils sont célibataires. Alors, pour les prêtres, en effet, il y en a qui sont mariés, d'autres non, selon les confessions ou les traditions. Alors, mon positionnement aujourd'hui, c'est que après le rapport Sauvé, et là, je m'adresse aux sociologues, il faudrait savoir si le célibat annonce le royaume ou s'il ne l'annonce pas assez, ou il ne l'annonce pas du tout. Parce que là, toucher, disons, à l'intégrité d'un enfant, évidemment, c'est le pire du pire. Et moi, ma question, c'est de savoir quels sont les chiffres. Par exemple, si on compare les pères de famille catholiques mariés et les prêtres célibataires, hein, si on fait une comparaison sociologique, où est-ce qu'il y a le moins de dégâts, si on peut dire, moins de crimes à l'encontre des enfants.
La question est surtout de savoir si ça peut être le mariage des prêtres un outil pour lutter contre ces abus sexuels.
Voilà, si le célibat ou le mariage... donc on semble dire que non, enfin dans la science on semble dire qu'il n'y a pas de conséquences, mais moi je ne vois pas de chiffres quasiment scientifiques pour me dire ça penche vers ceci ou vers cela. Vous voyez, moi ce qui m'intéresse c'est surtout par rapport aux agressions envers autrui, est-ce qu'il y a moins d'agressions avec ou sans le célibat ?
Céline Béraud veut vous répondre.
Oui, je peux répondre parce qu'effectivement, Nathalie Bajos, la collègue sociologue qui a travaillé dans le cadre de la CIAZ,
La commission de Jean-Marc Sauvé.
Voilà, sur les abus sexuels, commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui a été mandatée par l'Épiscopat et la Conférence des religieux et religieuses de France en 2018 et qui a rendu son rapport là, il y a deux semaines maintenant. Cette collègue, Nathalie Bajos, a fait une enquête de victimisation, c'est-à-dire qu'ont été interrogées plusieurs dizaines de milliers de personnes en France et on leur a demandé si elles avaient subi des formes de violences sexuelles et dans quel cadre ces violences avaient été exercées. Alors, il est évident que c'est pas le célibat en soi qui protège, c'est pas le mariage ou la vie de couple qui empêcherait les agressions sexuelles, puisqu'on sait que le premier lieu dans lequel sont exercées des violences sexuelles,
c'est la famille.
Ça, c'est pas nouveau, on le sait. En revanche, ce que montre aussi cette enquête de victimation, c'est que les personnes ont été deux fois plus victimes de violences sexuelles dans l'Église catholique qu'elles ne l'ont été dans des structures séculières, le club de sport, l'école publique, etc. Donc, en fait, il n'y a pas de lien direct, bien évidemment, entre mariage, célibat et agression sexuelle. sexuelle, bien évidemment. En revanche, les scandales font ressurgir cette question du célibat, non pas de manière directe, comme si le mariage serait un remède immédiat, mais en tous les cas, de manière plus indirecte, parce que le célibat a contribué à mettre à part le prêtre et à le sacraliser, et ça, dans l'analyse systémique qui est développée dans la chiase, qui est en gros en phase d'ailleurs avec celle du pape François lorsqu'il parle des abus, des effets délétères du cléricalisme. Un des effets, c'est justement le statut du prêtre qui apparaît comme un être hyper sacralisé. Et pourquoi ? Parce que, si vous voulez, à la fois ça le met dans une position de pouvoir par rapport à des personnes en situation de fragilité, que ce soit des enfants ou même des personnes majeures, et que ça a aussi cette hyper-sacralisation du prêtre, ça a aussi probablement contribué à rendre très difficile une prise de parole pour les victimes. Et on sait qu'elles ont parlé, donc peut-être encore plus. Vous voyez, c'est très difficile d'imaginer que cet être sacré, cet être à part, puisse être auteur d'actes qui sont radicalement, enfin orthogonalement opposé à l'idéal d'exemplarité qui est mis en avant. Donc quand cette question au célibat mariage, bien évidemment, elle n'arrive pas de manière directe, mais c'est repenser effectivement la place du prêtre, et que c'est un des éléments, c'est bien évidemment pas le seul, mais c'est comme ça que cette question est posée.
Jean-Aude Fresneau, j'aimerais entendre votre réaction, et évidemment on va écouter le Bernard Chalmel ensuite, mais est-ce que vous pensez que voilà le célibat des prêtres renforcent cette hyper-sacralisation qu'évoque Céline Béraud ?
Alors, je pense que oui, mais si on regarde chez les orthodoxes qui sont mariés, il peut y avoir une sacralisation aussi de la figure du prêtre, même marié. Donc, ça sera étudié de manière plus profonde, cette question-là. Et puis alors, pour les chiffres qu'on nous donne sur les familles et les autres institutions, bon, il faut se rappeler que les familles ont évidemment leurs enfants beaucoup plus longtemps que dans un presbytère ou dans une salle de catéchèse. Donc forcément, sur les chiffres bruts, il y a forcément plus de situations d'agression envers les enfants dans les familles. En revanche, par rapport aux autres institutions, donc le sport et puis les écoles publiques, là, il y en a moins. Or, les instituts, les professeurs de sport sont mariés. Donc c'est là où on peut voir peut-être aussi un élément comparatif entre des célibataires et des personnes mariées.
Bernard Chalmel, est-ce que vous nous racontez, parce qu'elle n'est pas ordinaire, votre histoire ? Vous étiez prêtre, alors vous dites que vous l'êtes toujours. Vous êtes aujourd'hui marié.
Allô ?
Oui, est-ce que vous nous entendez, Bernard Chalmel ?
Ça y est, il y a eu un creux, là, oui.
Je voulais juste que vous nous racontiez votre histoire, parce qu'on ne vous a pas encore entendu dans ce débat. Notre question, c'est est-ce que les...
Mon histoire, vous la trouverez d'ailleurs, cette histoire, dans un livre qui s'appelle « Marié à un prêtre papa ».
Que votre compagne a écrit ?
Nous avons écrit à quatre mains, donc c'est aux éditions Baudelaire, donc les gens peuvent le lire, ils comprendront un petit peu ce que vivent les prêtres dans leur solitude et dans l'accompagnement absent de l'épiscopat. Mais je voudrais revenir à l'intitulé de votre émission, vous disiez « Faut-il marier les prêtres ?» Je pense que ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait permettre de changer la discipline et qu'on puisse choisir d'être célibataire ou non ? C'est ça, en fait, la vraie question.
La question, c'est effectivement, c'est pas faut-il marier les prêtres ? C'est une manière un peu plus radicale de le dire, mais c'est effectivement, ça, oui. Est-ce qu'on peut ordonner prêtres des hommes mariés ?
Tout à fait.
Mais est-ce que vous pouvez d'abord commencer par votre histoire, parce qu'encore une fois, elle est assez rare quand même dans l'Église catholique. Vous êtes le père de deux enfants, vous étiez prêtre, vous aviez ces deux enfants, vous avez rencontré une femme. Vous pouvez nous raconter tout ça aux auditeurs ?
Oui, tout est possible, oui. Alors, effectivement, j'avais deux enfants, mais alors, avant de raconter, il faut commencer par le commencement. Si vous voulez, quand on est séminariste, on est très protégé, on est adulé, on vit en communauté, il n'y a pas de souci. Et puis, quand on avance en âge, quand on arrive autour de la quarantaine, se pose la question de la paternité. Et en même temps, c'est vrai qu'au sein des communautés chrétiennes, bon, il n'y a pas réellement d'accompagnement. Quand on est en charge d'une paroisse, il y a comme une alliance, si vous voulez. Les paroissiens nous sont confiés à nous prêtres, et ça va aussi dans l'autre sens. La communauté doit veiller sur son prêtre. Je suis actuellement conseiller presbytéral au sein de l'Église réformée. Bon, on accompagne notre pasteur, on veille sur son équilibre, affectif, économique, enfin, à tout point de vue, on veille sur ce qu'il vit. Il n'est pas seul. Quand on est prêtre en paroisse, surtout en rural, bon, on est envoyé en mission et on n'est pas accompagné. Alors, je reviens à mon témoignage. Si vous voulez, quand j'étais tout seul, avec des charges diocésaines, j'ai remplacé cinq prêtres, en 3 ans. J'étais directeur d'enseignement religieux. Je passais mon temps en voiture. Quand je rentrais chez moi, il n'y avait personne. J'étais isolé. Et j'ai eu, comme on l'appelle couramment, un burn-out. Donc c'est vrai que quand on donne beaucoup, on a envie de recevoir. Et quand effectivement, une famille m'a proposé, m'a offert son affection, j'ai craqué. Et après, j'avais ces 2 enfants avec moi. Et heureusement, ensuite, j'ai rencontré mon épouse actuelle. Et qui.
Mais vous avez caché ces 2 enfants à l'église ?
Je ne pouvais pas. Oui, tout à fait. Parce que si j'annonçais ma paternité, ça veut dire que d'entrée, je savais que je ne pouvais pas continuer mon ministère.
Et ça a été la même chose quand vous avez officialisé votre relation avec votre compagne ?
Non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est ma fille aînée et qui a dit, mon papa, il est au catéchisme de notre paroisse, il dit, mon papa, il s'appelle Bernard, il est à Villeneuve-sur-Lot, etc. Voilà. Et donc, le curé l'a dit à l'évêque, et l'évêque est venu me voir, il m'a dit, écoute Bernard, tu sais que tu as un enfant. Non, je n'ai pas un, j'ai 2 filles. Bon, tu connais la discipline de l'Église, il faut qu'à la fin du mois, tu quittes Villeneuve, tu quittes le diocèse. Autrement dit, il fallait que je disparaisse.
Comment vous avez réagi ?
Pas très bien, le jour même, parce qu'il voulait que je m'en aille, que je dégage, il fallait que je disparaisse. Donc il fallait que j'aille me cacher dans un foyer de charité ou que je parte en Afrique. Bon, et il n'y a pas eu aucune discussion, aucune recherche pour savoir ce qui s'était passé. Simplement, c'était la sanction, c'était la guillotine, il fallait que je m'en aille. Alors ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas voulu partir dans un foyer de charité pendant 1 an pour réfléchir. Le jour même, j'ai téléphoné à mon avocate, je savais que j'étais sur une ligne de crête. Donc, j'ai téléphoné pour continuer mon dossier et j'ai téléphoné à mon épouse pour dire « Acceptes-tu de te marier avec moi ?» Et grâce à cette présence, comme elle m'a dit oui, j'ai été sauvé des enfers.
Mais alors, pourquoi est-ce que vous vous considérez encore aujourd'hui comme prêtre ? Parce que l'Église ne vous considère plus comme prêtre.
Mais elle ne me considère plus comme prêtre au niveau du ministère. Mais je suis toujours prêtre dans mon état. Quand on est ordonné prêtre, on l'est pour toujours. Et donc, je me considère toujours comme prêtre parce que je n'ai plus le droit par discipline d'exercer mon ministère, mais dans mon âme, je suis toujours prêtre. D'ailleurs, mon épouse vous le dira en témoignage, toutes les nuits, quand je rêve de réunions, de camps, de retraites, je passe mon temps à continuer ma pastorale, si vous voulez. Ça me manque profondément d'être en communauté, ça me manque. C'est pour ça que je dis, comme on ne peut pas vivre sa foi tout seul, on a frappé aux portes de l'Église réformée, qui nous ont ouvert grand les bras, nous ont accueillis, et aujourd'hui, je suis prédicateur laïque, j'enseigne la parole de Dieu, et je peux baptiser, marier, présider les sépultures, voilà. Donc, je continue mon ministère, mais dans une autre Église.
Oui, donc, c'est une Béraud, le témoignage de Bernard Chalmel, qui peut baptiser, qui peut marier,
mais pas
qui
loin.
A des enfants,
oui.
Qui a une compagne, donc c'est une évolution.
Mais
ça a toujours été le cas. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'Église ou est-ce que c'est quelque chose de très rare ?
Là, Bernard Chalmel, il a été accueilli par une communauté réformée, c'est ce qu'il disait. Donc il est du côté des, il est chez les protestants. C'est dans une communauté protestante qu'il peut exercer ce ministère de prédicateur laïque. Il y a quelques figures un peu exceptionnelles dans l'Église catholique en France. Je pense à, vous savez, des anciens prêtres de l'Église anglicane ou des anciens pasteurs luthériens, par exemple, qui souhaitent venir dans l'Église catholique pour y être ordonnés et qui sont mariés, ont éventuellement des enfants et qui donc bénéficient d'une dispense.
Une dérogation.
Voilà. Donc il y a quelques prêtres catholiques exerçant en France qui sont mariés et qui ont des enfants. Donc là, mais c'est des cas assez exceptionnels.
Jean-Eudes Fresneau, prêtre du diocèse de Vannes, que vous inspire le témoignage de Bernard Chalmel ?
Moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'en effet, les prêtres qui font une rencontre amoureuse et qui se marient, Donc, je pense que l'Église devrait être plus souple dans cette discipline. Et, par exemple, leur proposer un ministère quasi diaconal, hein, c'est ce que fait finalement Bernard. Il baptise, il prêche, il marie, c'est ce que font les diacres. Hein, ça permettrait de ne pas perdre d'énergie, disons, dans l'évangélisation, parce que le but, c'est bien le royaume de Dieu, toujours. Donc, c'est ridicule d'arrêter comme ça tout ministère à un prêtre du seul fait qu'il est tombé amoureux. C'est même contradictoire avec le message évangélique.
Bernard Chalmel ?
Oui, ben je remercie mon confrère de parler ainsi. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais s'il savait ce que j'ai vécu comme acharnement de la part de l'autorité ecclésiale, ils auraient vraiment voulu que je disparaisse. Quand j'ai postulé pour rester à l'ombre de l'Église, j'ai demandé à œuvrer dans le catéchuménat, comme délégué du secours catholique, comme directeur d'une maison d'accueil près de Lourdes, mais j'ai été rejeté parce que l'évêque de Lieu dit « Ah, on l'a vu à la télévision, donc pas question que ce soit lui qui dirige cette maison d'accueil près de Lourdes ». Mais ça veut dire qu'il y a eu un rejet et pousse tout flanc, quoi. Donc, l'Église ne sait que sanctionner et son discours de miséricorde n'est pas du tout vécu.
Oui, il y a un décalage, c'est une béro. D'où vient cet acharnement, vous qui êtes sociologue, qui avez travaillé sur ces questions, d'où vient cet acharnement que dénonce Bernard Chalmel qui empêche d'avancer sur cette question de permettre l'ordination de prêtre, l'ordination prêtre d'hommes mariés?
Oui, et ben, peut-être qu'il faut revenir justement au petit historique que j'ai tracé, à cette déception qu'ont été des années 70 pour les personnes qui espéraient ce type de changement. Ensuite, il y a une remise au pas, je dirais, qui est quand même orchestrée par Jean-Paul II, qui, oui, va vraiment réinsister sur l'importance du célibat sacerdotal. Donc, et qui va vraiment considérer que c'est quelque chose qui est lié de manière très, très forte à l'état de vie des prêtres et qui va être très opposé à tout changement. Et je dirais que Benoît XVI a été tout à fait dans la même lignée. Donc, c'est réaffirmer le caractère sacré, le caractère séparé du prêtre et donc réaffirmer la centralité du célibat sacerdotal. Donc probablement, je ne sais pas quand est-ce que Bernard Chalmel ce qu'évoque Bernard Chalmel, durant quelle année ça se produit précisément, mais ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on soit sous l'un de ces deux pontificats. Il y a plus d'espoir du côté du pape François. En tous les cas, il y en a qui ont été exprimés. Il y a un moment intéressant, c'est le synode sur l'Amazonie. Le synode des évêques
2019,
voilà,
je vais vous en parler.
Voilà, c'est un moment intéressant parce qu'en fait, c'est la question de l'Amazonie. Donc, il faut imaginer ce qu'est l'Amazonie. C'est une grande zone avec très, très peu de prêtres. Donc, parfois, des communautés qui ne voient pas de prêtres pendant un an, voire deux ans, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de célébration de la messe. Il n'y a pas d'onction des malades. Il n'y a pas de sacrement de réconciliation. Hein, donc là, c'est vraiment une question. On a évoqué, voyez, plusieurs éléments qui pourraient venir bousculer ce célibat sacerdotal. On a évoqué la question des scandales, on a évoqué la question de la solitude et de la difficulté à exercer le ministère, et il y a cette troisième dimension qui est le manque de prêtres. Et donc, les évêques ont proposé au pape François d'ouvrir, mais alors ça n'aurait pas remis en question le célibat sacerdotal comme règle, mais en tous les cas, il y aurait eu une zone où la dérogation...
Pour répondre à la crise des vocations.
Voilà, pour répondre dans cet espace singulier, alors on aurait pu imaginer que ça se soit multiplié ailleurs.
Et clairement, c'était l'ouverture aux hommes mariés.
C'était l'ouverture d'accès des ce qu'on appelle les viri probati, c'est-à-dire donc d'hommes mariés qui avaient déjà fait leur preuve, ça aurait été des diacres, en fait, dans ce groupe-là qu'ils auraient été puisés, et on les aurait autorisés de manière dérogatoire à accéder à la prêtrise. Le pape François n'a pas suivi.
Alors,
voilà, le pape François n'a pas suivi dans son...
Mais alors, c'est un coup d'arrêt dans l'évolution. Vous dites qu'il y a une rupture après Benoît XVI, après Jean-Paul II.
Ouais, en tous les cas, c'est évident que c'est il y a un espoir. Enfin, il y avait la possibilité d'expérimenter quelque chose à l'échelle de la région de l'Amazonie. Le pape François n'a pas suivi cette piste. Mais il faut aussi avoir en tête qu'il y a une opposition farouche dans la curie sur ces questions-là, avec des évêques justement beaucoup plus conservateurs qui font la question du célibat sacerdotal un élément sur lequel ils ne veulent absolument pas lâcher et qui donne à voir une opposition entre d'un côté des personnes qui sont plus ouvertes au changement, certains prélats, et d'autres qui défendent farouchement le célibat sacerdotal.
Et ça renvoie certainement à l'acharnement qu'évoquait Bernard Chalamel, qu'on va entendre dans un instant parce qu'il veut réagir, mais je voudrais vous entendre, Céline Béraud, sur la question des diacres que Jean-Eudes Fresneau a soulevé, parce que
c'est une question
François
très intéressante.
Veut valoriser le rôle des diacres, qui sont souvent des hommes mariés. Est-ce que ça peut être une première étape justement vers ce mariage des prêtres?
Dans cette idée, une expérimentation en Amazonie, c'était sur les diacres. Donc les diacres, c'est un ministère qui est réinventé après le Concile de Vatican II, donc dans les années 60. Et au départ, on pense que c'est très débattu au Concile de savoir si les diacres seront célibataires ou pas. Et dans les textes du Concile, on parle de diacres même mariés, donc avec l'idée que ça sera possible, mais presque du registre de l'exception. Et en fait, en France, vous avez plus de 95% des diacres qui sont mariés ou qui sont veufs, qui l'ont été. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça a fait, dans les communautés catholiques françaises, ce sont des clercs, ce sont des membres du clergé, ils sont ordonnés, et ça a fait surgir cette figure tout à fait atypique en contexte du catholicisme français, de clercs ayant femmes et enfants. Et effectivement, ça peut être une des voies par lesquelles des changements pourraient être opérés.
Femmes et enfants comme Bernard Chalamel qu'on écoute dans le débat ce soir, hein, donc, qui est aujourd'hui marié, qui était prêtre. Vous voulez réagir, Bernard Chalamel, vous l'avez dit à
oui,
notre réalisateur.
Notre ami sociologue, à mon sens, ne va pas assez loin. Enfin, personnellement, quand j'étais curé, j'ai appelé deux hommes au diaconat, j'en suis ravi, fabuleux, remarquable. Je ne suis pas personnellement contre le célibat. Je pense qu'il peut être un signe quand il est vécu en communauté, quand il est accompagné chez les religieux. C'est le signe de l'amour gratuit de Dieu, c'est superbe. Mais quand on est prêtre séculier, dans le contexte culturel que nous vivons, avec les pressions que nous subissons, je pense que les évêques ne font pas leur boulot dans l'accompagnement de leurs prêtres. Quand on ordonnés ou consacrés évêques, leur première mission, c'est de veiller sur l'état spirituel, affectif, physique de leur presbytérium. Ils ne le font pas. On ne peut pas larguer des prêtres seuls dans la nature. Donc, pourquoi pas le célibat, à condition qu'ils soient accompagnés, qu'il y ait des supervisions. Voilà ce que je voulais ajouter. Et je pense qu'aujourd'hui, le célibat n'est pas crédible. Les gens, même pour un prêtre qui vit très bien son célibat, ben, il est vilipendé. On se moque de lui. Il faut que les gens prennent conscience qu'aujourd'hui, ce n'est plus forcément un signe parlant. Et on ne peut pas rester à une discipline qui a été consolidée au moment du Concile de Trente. Les prêtres ne sont pas des héros, ce n'est pas des surhommes. Et donc, on ne peut pas en rester là. Il faut, je crois, faire évoluer la discipline.
Jean-Eudes Fresneau, prêtre du diocèse de Vannes, est-ce que, bah, vous qui êtes prêtre, justement, quand on est ordonné prêtre, quand il y a la formation avant en séminaire, est-ce que tout cela, on vous sensibilise à l'engagement que cela représente? Est-ce que la question de la sexualité est tabou? Est-ce que le non-mariage, c'est tabou? Est-ce qu'on en parle?
Alors, moi, j'étais au séminaire de Vannes entre 1989 et 1998, et on parlait quand même des questions d'affectivité, de sexualité, les premières années. Quand j'étais peut-être dans un séminaire un peu en avance sur d'autres, je ne sais pas, mais toutes ces questions n'étaient pas taboues. Hein. En revanche, c'est vrai que depuis l'an 2000, il y a des livres qui ont été écrits sur l'homosexualité, sur le mariage des prêtres, etc., sur la pédocriminalité, sur les abus, etc. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, à mon avis, il faut remettre à plat toutes nos connaissances et notre théologie pour en effet relancer le sacerdoce ministériel pour le troisième millénaire. On ne peut plus vivre au Moyen-Âge. Et donc, il faut encore une fois annoncer le royaume. Et le célibat est un moyen, ce n'est pas un but. Là, je suis assez d'accord avec le Bernard. Il faut remettre le célibat à son bon niveau.
Un moyen, alors je ne sais pas si je vous suis directement, mais un moyen pour lutter contre les abus sexuels, d'ouvrir aux hommes mariés de pouvoir être ordonné prêtre, est-ce que c'est ça que vous voulez nous dire? Il nous reste quelques secondes.
Il faut veiller en effet à ce que le célibat ne soit pas pire que le mariage au niveau des abus de toutes sortes. Donc moi, mon intuition, c'est que c'est probablement pire que le mariage, mais bon, de manière en effet indirecte et non pas directe. Maintenant, moi, je pense qu'il faudra des chiffres, hein, parce que si on n'a pas de chiffres, on peut dire tout son contraire. Donc, tant qu'on n'aura pas de chiffres sociologiques sur ces questions-là, ça sera difficile de changer la liste.
Des chiffres précis pour savoir effectivement ce que changerait le fait de pouvoir être marié en tant que prêtre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans le catholicisme, sauf rare dérogation, vous nous avez dit, Céline Béraud, sociologue. Merci Jean-Yves Fresneau, prêtre du diocèse de Vannes, et merci Bernard Chalmel, qui était également en ligne avec nous. C'est déjà la fin de ce débat du jour. Rendez-vous sur rfi.fr pour le réécouter.
Tous les jours, Accent d'Europe.